Alors, ce matin, on va continuer. Je vais reprendre, vu que ça fait longtemps que vous ne m'avez plus vu après un petit passage en Inde. Je devrais vous saluer. Namasté. Voilà. Du coup, vous avez plus trop. Vous savez plus trop où on en est. Je vais juste projeter. Ça arrive. Tac. Ça devrait arriver. Voilà. Donc, je vais juste vous redonner quelques. Bribe pour que vous puissiez suivre. Donc, nous sommes dans cette série intitulée Équilibre pour une vie qui atteint sa cible. Alors, est-ce que vous avez envie que votre vie atteigne la cible pour laquelle Dieu l'a créée? Ouais, c'est vachement convaincant, hein? On est dimanche matin, je sais. Oui, super. Bon, c'est très bien comme ça, je peux continuer. Alors, effectivement, nous avons été créés pour un but. Dieu a le désir que notre vie atteigne sa cible, mais nous avons besoin d'être équilibrés pour cela. Donc, c'était l'image de cette fameuse flèche. Voilà, donc on a besoin d'être équilibrés, parce que si une flèche n'est pas équilibrée, eh ben, elle ne va pas réussir à aller loin et atteindre la cible. J'avais pris une autre image, c'était celle du centre de gravité, en disant que Jésus est pour nous, a besoin d'être au centre de tous les domaines de notre vie. Hein. Il est comme le centre de gravité. Puis vous savez que si le centre de gravité est déplacé, eh ben, en fait, on est en déséquilibre. Et par exemple, l'objet va tomber, ou nous aussi, on peut tomber. Ça, des choses qui arrivent. Donc, à la mesure où il n'est plus au centre, ben, le déséquilibre s'installe. Et cette notion d'équilibre, elle me tient très fort à cœur parce que je crois vraiment que c'est ce que Dieu désire. Il désire que nous soyons des chrétiens équilibrés et sans jugement aucun, mais je vois encore parfois des chrétiens qui sont d'un extrême et puis des chrétiens qui sont d'un autre extrême. Soit hyper, hyper légaliste où on peut juste ne rien faire. Même pas boire un verre de temps en temps, un apéro, il serait mal dans cette église, hein, parce qu'il y a quand même quelques apéros assez fréquents. Voilà. Et puis, il y a aussi des chrétiens où finalement, plus rien n'est grave, il n'y a plus vraiment de problème. Et puis la notion de péché, on n'en parle plus. Puis la sanctification, c'est, bon, voilà, c'est de temps en temps, mais on n'a plus besoin de parler de ça, puis on peut tout faire. Et puis non, il y a un juste milieu dans tout ça. Donc voilà, dans la vie chrétienne, on a besoin d'être équilibré dans ce qu'on proclame, dans ce qu'on croit, pour être aussi pertinent aujourd'hui. Donc, on l'avait vu, on a besoin d'être équilibré dans nos paroles, on a besoin d'être équilibré dans nos actions, mais on avait besoin d'être équilibré dans la gestion de nos émotions. C'était le premier message que nous avons vu ensemble. On a besoin d'être équilibré dans la gestion même de nos finances. Ah oui, parce que Jésus, il a aussi quelque chose à dire dans nos finances. On a besoin d'être équilibré dans nos priorités, dans la gestion de nos priorités. Et puis, ce fameux verset de Ésaïe nous dit « Il a fait de moi une flèche aiguisée » en parlant de Jésus. Et à l'image de Jésus, Dieu désire faire de nous des flèches équilibrées, aiguisées, pour que nous atteignions avec précision l'objectif. Il ne veut pas qu'on soit juste au bord de la cible, mais il désire qu'on soit dans le centre de la cible, le centre de sa volonté. Ça, c'est vraiment le désir de Dieu pour nos vies. Alors, lorsqu'il n'est plus au centre, je l'ai dit, il y a déséquilibre, on manque inévitablement la cible. Et puis, vous savez aussi que le verbe, quand on dit pécher, hein, littéralement, c'est manquer la cible. Donc, en fait, quand Jésus n'est plus au centre, il y a déséquilibre et on manque la cible. Et ça nous conduit dans... C'est le péché, en fait. Et le péché, je l'ai dit dans mon premier message, ce n'est pas seulement le péché qui est un problème en soi, bien sûr, ce n'est pas super. Mais ce qui est le plus dommageable, c'est qu'on loupe le pourquoi Dieu nous a fait. C'est qu'on loupe la cible. Et le cœur de Dieu, c'est qu'on soit là où il a prévu, là où il, vraiment dans la volonté qu'il a pour notre vie. Ça, c'est le désir de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement de dire « le péché, ce n'est pas bien ». Non, ce n'est pas ça que Jésus veut nous dire. Il aimerait nous dire « mais moi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Moi, je peux équilibrer ta vie pour qu'elle atteigne son plein potentiel. » Ça, c'est ce que Jésus veut nous dire. Amen. Alors, on va laisser le Saint-Esprit rééquilibrer tous ces domaines. Et puis, ce matin, on va parler de la gestion de nos pensées, un domaine qui a bien besoin d'équilibre. Et la première chose à réaliser dans ce domaine des pensées, c'est que nos pensées ont une influence énorme sur tout notre être. Elles ont une influence sur tout notre être. Elles influencent nos attitudes, elles influencent nos réactions, elles influencent nos émotions, on en a parlé, elles influencent nos paroles, nos actes, elles influencent notre regard sur le monde, notre regard que l'on pose sur les autres, notre regard que l'on pose sur nous-mêmes. Hein, puis ça, c'est très, très fort, très puissant. Et même, elles vont jusqu'à atteindre notre santé. Il y a des pensées tellement dévastatrices qui vont nous rendre malades. Et la dépression en est un syndrome, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui chopent des eczémas, il y a des gens qui commencent à avoir de l'arthrose, parce que des pensées tellement négatives les obsèdent. Donc, les pensées sont vraiment puissantes. Et pour vous donner une idée, nous avons en moyenne 30 000 pensées par jour. C'est pas mal quand même. Alors les matheux peuvent vite faire un calcul combien ça fait par minute. Monsieur. Non, il n'y a pas un rapide là en maths. Bon, 30 000 pensées par jour. Et puis comme je le disais, ben, dans ces 30 000 pensées, il y a un bon nombre de ces pensées qui ne sont pas bonnes et qui vont nous amener ce déséquilibre. Donc c'est des pensées qui ne communiquent pas la vie, c'est des pensées qui sont toxiques et puis qui vont petit à petit nous détruire. Alors je me suis intéressé à quelques travaux d'une docteur Leaf, qui est spécialiste en neurosciences, mais qui est aussi qui a vraiment une foi chrétienne, on peut le voir dans plusieurs de ses écrits. Et puis, elle a fait quelques travaux de recherche. Elle a pu démontrer qu'une seule pensée en lien avec quelque chose qui fait peur, hein, donc vous commencez à imaginer, à penser qu'un voleur est en train d'entrer chez vous, hein, ça fait peur, donc voilà. Donc juste, c'est mes enfants qui ont peur de ça. Donc juste cette pensée-là, hein, eh ben, elle va déclencher 1400 produits chimiques connus. Elle va activer plus de 30 différentes hormones dans notre corps. Donc juste une pensée. Alors une pensée négative. Alors imaginez, on en a 30 000 dans la journée. Va falloir gérer. Hein. Voilà. Donc les pensées ont une grande influence sur notre vie. Le proverbe... Ouh là là. Là, vous avez gagné beaucoup de temps. Tac. C'est le flux de mes pensées, vous voyez, ça a tellement envie. Proverbe 13, verset 7, dans la version Darby, dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Et dans le contexte, le verset parle d'un homme qui est mal intentionné, mais l'idée est simplement de relever que la pensée nous définit. Ce qu'un homme ici a pensé au fond de lui devient réel. Il s'exprime dans qui il est, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il dit. Donc si notre manière de penser elle n'est pas équilibrée, ben, il y aura des conséquences multiples et il est nécessaire de se débarrasser de ces pensées néfastes qui trop souvent prennent le contrôle de nos vies. Le pasteur évangéliste américain Robert Harold Scholler, qui est décédé en 2015, a dit ceci: il suffit que nous laissions une seule pensée positive survivre et agir pour qu'elle triomphe de toute une armée de pensées négatives. Amen. Donc on a beaucoup, mais dites-vous, il en faut une positive pour que les choses changent. Et les pensées donc, ont une influence sur nos vies, mais la deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que nous sommes responsables de nos pensées. Nous devons saisir que nous avons une responsabilité sur nos pensées. Et le jour où j'ai vraiment compris ça, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Parce que moi, j'avais l'impression que finalement, on ne pouvait pas choisir ce que nous pensions. Et pendant longtemps, je me disais, ben voilà, il y a des pensées qui arrivent dans mon esprit, et puis ben, je ne peux rien en faire, finalement, je dois subir ces pensées. Mais ce n'est pas vrai. On est responsable de nos pensées. On peut choisir. C'est à nous de déterminer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et on doit reprendre autorité sur nos pensées, pour ne pas se laisser dominer par elles. Alors lorsque j'ai compris que j'ai le pouvoir sur mes pensées, c'est à moi de déterminer ce qui peut rester dans mon esprit, ben, j'ai pu commencer à discipliner mon esprit. Et c'est un travail de longue haleine, en fait. Ce n'est pas juste comme ça, je suis sûr que vous n'allez pas repartir là, puis tout est réglé. Non, mais vous allez pouvoir entamer un processus, dire, OK, maintenant, je veux commencer à analyser ces pensées et puis choisir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et c'est un processus qui prend du temps. Et parfois, en fait, en préparant ce message, j'ai réalisé que je m'étais un peu relâché là-dessus et qu'il y avait pas mal de pensées que j'avais de nouveau laissées revenir. Et voilà, ça m'a de nouveau tout travaillé en me disant, mais waouh! Donc, ce n'est pas juste gagner pour toujours, mais c'est vraiment quelque chose que nous devons exercer et vivre au quotidien. Évidemment, nos pensées, elles ont plusieurs sources. Elles viennent de ce que nous entendons, elles viennent de ce que nous regardons, elles viennent de ce que nous lisons, ce que nous étudions, elles viennent de nos questionnements. Mais bien sûr que l'ennemi, il vient semer ses mauvaises pensées dans notre esprit. C'est comme s'il vient imposer une pensée devant toutes les autres. Alors j'ai essayé de prendre une image, et puis c'est une image vieille. Et c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, c'est pas grave, vous allez rire. Est-ce que certains savent encore qu'est-ce que c'est ça? Alors les plus jeunes dans la salle, ils sont un peu perdus. Parce que vous n'avez jamais connu les diapos. Ah là 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 là. Je pense que j'étais à peu près la dernière génération à avoir encore quelques diapos à l'école, en géo, en histoire, avec quelques images comme ça, avec un joli bruit derrière. Voilà. Pour les autres, c'est un outil technique que vous maîtrisez parfaitement. Hein. Bien sûr, bien mieux que l'informatique, je suis sûr. Mais voilà, à l'image de ces suites de diapos, de ce chariot de diapos, c'est un peu l'idée de dire, on a des pensées qui se succèdent comme ça, d'accord? Donc j'aurais pu imaginer un PowerPoint, mais c'était plus difficile à matérialiser. Alors, il y a des pensées comme ça qui se succèdent. On peut imaginer nos 30 000 pensées qui sont rangées comme ça, les unes derrière les autres, et puis hop, elles viennent devant notre tête, et puis on a une image. Généralement, on voit quelque chose. Quand on pense quelque chose, hein, si je pense à ce fameux voleur qui est en train d'ouvrir ma maison, je le vois, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça vient éclairer comme ça. Et l'ennemi, il vient mettre chaque fois ce diapo qu'on ne veut pas, mais il vient le mettre devant tous les autres, et puis l'imposer à notre esprit. Alors, tant qu'on n'a pas choisi, tant qu'on ne fait pas le pas de dire « je n'en veux plus », hein, de ce diapo, eh ben, lui il va continuer à revenir avec ça jusqu'à ce qu'on considère que c'est normal. Jusqu'à ce que notre cerveau dise « ça fait partie, c'est juste ». Jusqu'à qu'on considère que cette image-là, que cette pensée-là, elle est juste. Alors imaginez si c'est une pensée négative à propos de vous-même, il va continuer à la mettre, puis continuer à la remettre, puis peut-être que vous allez l'enlever un petit moment, mais il va la remettre deux rangs plus loin, puis elle va revenir. Et puis finalement, vous dites, c'est juste, je suis nul. Voilà. Et puis là, il peut passer à autre chose, puis vous mettre une autre. D'accord? Mais c'est comme ça, donc ça s'imprime. Ok? Donc, lui, son but, c'est vraiment qu'on considère que ce qu'il met, c'est normal et vrai. Mais c'est à nous de faire le tri et de décider quelles pensées nous acceptions dans notre esprit. Alors, nous avons une double responsabilité. Nous avons premièrement la responsabilité sur ce qui nourrit notre cœur et nos pensées. Jésus a dit dans Matthieu 15, 19, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Vous connaissez tout ça, puis ça nous étonne toujours un petit peu, mais quand même, mon cœur, il n'est pas si mauvais. Mais oui, c'est du cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui forme ces mauvaises pensées. Donc, on a une responsabilité sur la source. Proverbe 4, 23 dira « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit notre pensée? Ça, c'est notre responsabilité de faire ce choix. Et puis, la deuxième responsabilité, nous avons la responsabilité donc de faire le tri sur nos pensées, et de ne pas tolérer ces pensées qui sont toxiques, que j'en sois moi-même l'auteur, ou bien qu'elles soient insufflées par l'ennemi. Alors, si j'ai une pensée impure. Je vais tout de suite parler un peu de l'impureté là. Ok, si j'ai une pensée impure. Alors elle peut être là parce que j'ai regardé une image ou un film à caractère pornographique, par exemple. Donc cela, ça va me renvoyer à ma première responsabilité. De quoi est-ce que je me nourris? C'est clair que si je vois des choses comme ça, ben, ça va nourrir mon esprit, puis il y a des images qui vont être là. D'accord? Et puis en passant, ben, ceux qui sont aux prises avec ça, hein, je vous encourage à continuer le combat. Et je ne m'adresse pas juste aux hommes, parce que chaque fois je m'adresse aux hommes, puis il y en a qui disent, enfin, les femmes des fois me reprennent, mais il y a aussi des femmes. Oui, je sais, aujourd'hui on s'aime beaucoup à être pris là-dedans, mais je crois vraiment qu'il y a spirituellement un enjeu très important pour les hommes, parce que j'ai la nette impression que c'est le piège de l'ennemi pour paralyser les hommes aujourd'hui. Vraiment. Donc je vous encourage à lutter, à vous combattre, à faire des groupes d'hommes et puis à vous dire « Ok, on va s'entraider. N'ayez pas honte d'en parler, c'est une réalité aujourd'hui, mais on peut se mettre ensemble pour gagner le combat. » Amen. Bon, je reviens à cette pensée impure. Alors cette pensée impure, je peux soit la cultiver, d'accord, parce que finalement elle me plaît, puis je la laisse là, ok. Ou bien je peux la rejeter, puis je me dis, ben non, elle n'est pas bonne pour moi, elle n'est en tout cas pas inspirée de l'Esprit de Dieu, donc je n'en veux pas. Il y a aussi des pensées mensongères que l'ennemi met dans notre esprit. Par exemple, il pourra dire peut-être à une femme ici, tu n'es pas une bonne maman. Regarde la maman de Léon comme elle assure. Ça, c'est, je pense que c'est un truc qui n'existe pas du tout, hein, c'est pas, ça ne vous arrive jamais. Non. Mais bien sûr que c'est totalement faux, mais ça va venir toucher nos fragilités intérieures, ça va venir nous ébranler. Mais c'est à toi de déterminer si tu vas tolérer cette pensée ou la rejeter, si tu vas l'accepter comme juste ou non. La difficulté, c'est que souvent, nous nous sommes construits sur des telles pensées. Donc si je dis que je suis un mauvais papa, c'est parce que je pense que je suis un mauvais papa. Hein, donc, c'est en lien avec ma pensée. Une citation de Henry Ford qui dit que vous pensez en être capable ou que vous pensez en être incapable, vous avez raison. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que finalement, ce qu'on dit en lien avec notre pensée, ben, c'est ce qui est vrai pour nous. Donc si je dis que je ne suis pas capable, ben, peut-être que c'est que j'ai raison si j'ai pensé ça. Mais je peux dire l'inverse et puis j'ai aussi raison. Donc c'est pour ça que c'est nous qui devons déterminer ces choses-là. Donc notre pensée, qu'elle soit vraie ou fausse, devient notre vérité, notre réalité ou même notre identité parfois. Alors lorsque nous reprenons le contrôle de nos pensées, que nous comprenons que le type de pensée « je suis une mauvaise maman, je suis un mauvais papa », etc., n'est pas juste, alors on laisse la place, enfin, à la pensée de Dieu. On enlève ces pensées-là pour lui laisser la place. Puis lui vient nous dire tout autre chose. Il ne va jamais prendre un jugement de valeur pour dire, il ne va pas nous faire une échelle de valeur, alors sur l'échelle des bons papas, t'en es où? Non, Jésus ne fait jamais ça. Il va dire, moi, ce que je vois, c'est que tu es mon fils, que tu es ma fille, bien-aimée, la fille que j'aime. Et puis si tu le veux, si tu le désires, j'aimerais marcher avec toi. J'aimerais te soutenir, j'aimerais grandir avec toi, j'aimerais demeurer en toi, j'aimerais te faire progresser dans les domaines de ta vie. Ça, c'est ce que Jésus nous propose, mais il ne commence pas à nous dire, alors, toi, t'es plutôt sur un 5, là, et puis effectivement, il y a du boulot. Non, il n'est pas comme ça. Donc, toutes ces pensées de mauvais, bon, etc., c'est pas Jésus, Jésus, il ne fait pas ça comme ça. Paul dira en 2 Corinthiens 5, 10, verset 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un verset sûrement que vous connaissez, mais qui est tellement, tellement fondamental. Notre responsabilité, c'est ça, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le verset précédent, Paul parle de renverser des forteresses, les faux raisonnements. Donc ces pensées toxiques ont formé en nous des forteresses et des faux raisonnements. Et nous avons la responsabilité, je l'ai mis comme ça, de soumettre nos pensées à Christ de manière à ce qu'elles s'alignent à sa vérité. Donc nos pensées doivent s'aligner à la pensée de Christ, à la vérité de Christ. Et ça, c'est à vous, c'est votre responsabilité de le faire, de le dire. Maintenant, je veux que mes pensées s'alignent à la volonté de Christ, à la vérité de Jésus, pour ma vie, pour ma vision du monde, pour les domaines de ma vie. Donc c'est comme ça que le tri peut vraiment se faire, qu'on peut construire notre vie sur des bonnes pensées qui sont inspirées du Père. C'est ces pensées-là qui vont nous donner le juste équilibre dans nos pensées. Alors Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, va nous donner 8 catégories de bonnes pensées. On va les regarder ensemble ce matin. On va lire ces versets. Donc dans ce chapitre, il parle au sujet de la stabilité spirituelle. Et puis, il va dire ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Alors, regardez un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Ça semble toujours très bien, hein, on dit « Amen » facilement. Mais peut-être qu'il y a deux, trois trucs, c'est bon. Tout ce qui mérite l'approbation, c'est quoi? Bon, on va voir tout ça. Mais j'aimerais juste commenter déjà avec ce « au reste » là, cette conjonction « au reste ». Là, en fait, il arrive au terme, à son point culminant ou son plan de conclusion, justement sur le sujet du chapitre 4, sur la stabilité spirituelle. Et puis, on pourrait même aller jusqu'à dire que ce qui occupe nos pensées est garant de notre stabilité, est garant de notre équilibre spirituel. Donc, il termine avec ça. Au reste, frère, mais il faut vraiment que ce soit l'objet de vos pensées. C'est important pour conclure ce thème-là sur la stabilité spirituelle. Et la version Summer débute ainsi: « Enfin, frère, nourrissez vos pensées », et ainsi de suite. Et on retrouve cette idée de nourrir, hein, ce point de notre appel à notre responsabilité de qu'est-ce qui nourrit nos pensées. C'est à nous de choisir ce qui va nourrir nos pensées pour une vie équilibrée qui va atteindre sa cible. Alors on va regarder à ces 8 points énumérés par Paul. Vous êtes encore là, ça va? Parfait. Donc le premier, c'est ce qui est vrai. Donc, il y a un appel à rechercher et à aimer la vérité. Donc gardons nos pensées dans ce qui est vrai et qui est basé sur une expérience réelle et non pas sur des fausses impressions ou sur notre imagination. Et je crois que ça c'est très important parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont attachées par justement des mensonges de l'ennemi. Hein, elles croient que, elles pensent que les gens pensent que, etc. Puis ça, ça attache. Donc il y a des personnes qui sont paralysées par des mensonges à leur propre sujet, hein, du type je suis une mauvaise maman, pour revenir sur l'exemple d'avant. Il y a aussi des personnes qui n'avancent pas parce qu'elles pensent de manière hypothétique. Pour un tas de domaines, pour un tas de situations, hein, par exemple, elles vont dire « Ah, mais il ne va jamais me croire !»« Mais est-ce que tu lui en as parlé ?»« Ah non !» Comment tu peux savoir qu'il ne va jamais te croire ? Donc elles basent leur vie sur une pensée qu'on ne va pas les croire, et puis elles n'avancent pas, parce qu'on ne va pas les croire. Mais elles n'ont pas essayé, elles n'ont pas testé, donc c'est juste hypothétique. Ou bien quelqu'un pourrait dire « De toute manière, il ne m'aime pas !» De toute manière, il ne m'aime pas. Ah bon ? Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il ne t'aimait pas ? Est-ce que tu lui as demandé ? Ah non, mais il ne m'aime pas. Mais aucune idée, c'est faux, c'est des fausses pensées. Mais elle reste dans cette ce côté hypothétique comme ça, puis la personne se construit là-dessus, et puis elle ne confronte jamais la réalité, la vérité, ce qui est vrai. Donc c'est important de baser notre vie et nos pensées sur ce qui est vrai. Et c'est bon de oser questionner nos pensées. Est-ce que ce que je pense maintenant est réellement vrai, ou bien c'est une projection, c'est une idée, c'est juste hypothétique. Bien sûr, ce qui est vrai, c'est par-dessus tout la parole de Dieu. Et là, on ne peut pas se tromper. Elle est vraie et tu peux construire sur la parole de Dieu. Lorsqu'une vérité biblique, elle occupe nos pensées, les pensées mensongères, toxiques, elles sont chassées. Et ça, c'est pour ça que c'est super important d'apprendre aussi, de pouvoir proclamer la parole. Hein, moi, je dis pas... faut savoir pourquoi on le fait, dans le sens, je dis pas à mes enfants, faut apprendre toute la parole par cœur, puis commencer à apprendre les paroles. C'est pas ça que je leur enseigne, c'est vrai. Mais par contre, de connaître la parole et de pouvoir la proclamer à bon escient, si on le sait pourquoi on le fait, ça vaut la peine. Donc si vous apprenez la Bible, c'est pas pour dire j'ai plein de connaissances, mais si vous apprenez des versets de la Bible pour lutter contre ces pensées-là, alors là, vous êtes gagnant. et c'est important. Et hier soir, j'expliquais un peu, avant de coucher, j'expliquais brièvement à mon fils ce que j'allais vous partager. Et puis, il m'a dit, ah ben ça, c'est bien vrai, hein, parce que, alors, un verset biblique, et hop, il y a plein de pensées négatives qui s'en vont. Hein. Puis des versets bibliques, hein, y en a. Je dis, ouais, c'est sûr, il y en a. Bah, c'est vrai, donc vous avez le choix, mais c'est bon de les intégrer et de les proclamer. Donc que nos pensées soient portées sur ce qui est vrai. Deuxième chose, ce qui est honorable ou noble. Dans honorable, moi j'entends honneur. Et avoir des pensées remplies de ce qui est honorable, c'est mettre à l'honneur ce qui doit l'être chez les autres, par exemple. C'est penser le meilleur à propos des gens, c'est se réjouir intérieurement de ce qui mérite l'honneur, ce qui est beau, noble. Le terme, il peut être aussi traduit par honnête. Alors, vous savez, il y a des gens qui mettent toute leur énergie pour faire des plans malhonnêtes. On a tous vu des grands films de les gars, ils élaborent un plan stratégique pour cambrioler une banque, hein. Par exemple, mais c'est fou, l'énergie qu'on peut mettre pour être malhonnête. C'est vrai quand même. Alors, l'idée là, c'est bien sûr le contraire. C'est-à-dire, mais soyons encouragés à avoir cette pensée d'intégrité et investir notre énergie pour des causes qui sont bonnes, qui sont nobles. Qu'est-ce que Dieu considère comme honorable? Ça, je vous laisse cette question, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce que Dieu considère comme honorable? Est-ce que je voudrais attacher ma pensée à ces choses-là? Troisième chose, ce qui est juste. Ce qui est juste, ben, se définit par ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, c'est avoir des pensées selon le cœur de Dieu qui sont alignées à sa volonté. Lorsque nos pensées sont justes, lorsque nos pensées sont conformes à sa volonté, la flèche de notre vie, elle va dans la bonne direction, elle atteint sa cible. À l'inverse de ce qui est juste, il y a quoi? Il y a par exemple le jugement ou la condamnation. Et souvent, hein, nous pouvons avoir des pensées qui jugent les autres. Donc avoir des pensées justes, c'est développer une pensée objective qui ne va pas chercher à condamner l'autre, qui ne va pas chercher à juger l'autre, mais qui va considérer l'autre et même les domaines de nos vies comme avec le regard de Jésus, avec le juste regard de Dieu, avec un regard objectif sur la situation. Hein, souvent, les jugements, ce n'est pas objectif. On juge des gens par leur apparence ou parce qu'on pense savoir que, mais ce n'est pas objectif. Donc, ce qui est juste, c'est d'avoir une vision objective et juste qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Ça va, me suivez? Pas simple. Hein. OK, ce qui est pur, on y revient. Les pensées impures, elles nous empêchent d'être libres. Elles nous prennent beaucoup d'énergie. Et puis, qu'est-ce qu'elles font? Elles amènent la culpabilité. Et petit à petit, elles nous éloignent de Dieu. Puis, elles nous éloignent aussi des autres. On est souvent seul dans ces moments-là. Dans les Béatitudes, Jésus a dit au Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est Jésus qui peut faire cette œuvre en nous, vraiment de nous rendre purs, de rendre nos pensées pures. Alors bien sûr, si vous avez mal nourri votre esprit, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plein de pensées impures en stock. Mais ce matin, vous pouvez décider tout à nouveau de dire « Ok, moi je ne veux plus ces pensées-là ». Puis vous pouvez recommencer à discipliner votre esprit. Vous pouvez demander aussi au Saint-Esprit justement de purifier votre cœur, de purifier vos pensées. De laver votre regard. Ça, c'est important. En fait, c'est marrant, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et il y a le lien aux yeux, toujours dans la pureté. D'ailleurs, vous vous souvenez, Job a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Intéressant, pour qu'il reste pur, pour avoir des pensées pures, il a fait un pacte avec ses yeux. Et c'est, voilà, donc ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Moi, j'ai été touché une fois par une parole d'un ami, alors que j'étais, j'avais entre 16 et 18 ans, comme ça. J'étais confronté à la pornographie, je consommais de la pornographie. Mes pensées et mes actes, d'ailleurs, au niveau de ma sexualité, n'étaient pas purs. Et d'ailleurs, ça a été un gros combat pour moi et aussi de la découverte de la grâce de Dieu, hein, vous pouvez penser, parce que j'avais toujours le cœur de servir Dieu depuis l'âge de 12 ans. Et quand je luttais là-dedans, je me suis dit, c'est foutu pour moi. Je ne pourrais jamais être pasteur, parce que je vis ces choses-là. Et puis Dieu est vraiment venu me chercher dans sa grâce, et je le bénis encore. Mais voilà, je connaissais un ami, enfin, bien sûr, des gens, j'avais demandé la prière, donc des gens savaient ça. Mais ce gars, il ne savait rien. Et puis, je l'ai revu quelques années plus tard, quand il y a eu vraiment un changement. En fait, Dieu m'a vraiment venu me chercher alors que j'avais commencé, que j'étais parti me former à l'école biblique. Donc là, j'ai vraiment été un changement radical. C'est comme s'il me dit, je ne peux pas te laisser avec ça maintenant. Et puis, il y a vraiment eu un changement. Et quand je suis revenu, ce gars me revoit. Et puis, il me dit, ton regard est différent. Quelque chose de différent dans tes yeux. Puis moi, ça a tout de suite fait écho. Il m'a en fait, c'était mon impureté. Tu le savais pas, mais au fond de moi, ce qui était impur devait se voir dans les yeux. C'était pas net, c'était pas propre. Donc voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a un lien avec les yeux. Donc ne tolérons pas ces pensées impures dans notre esprit, mais attachons-nous à ce qui est pur. Et c'est une lutte de tous les jours, c'est vrai. Mais je nous encourage, je suis avec vous. Ensuite, ce qui est aimable. Donc, c'est avoir des pensées qui relèvent tout ce qui est beau, que ce soit dans la création, dans le caractère d'une personne, dans une culture, dans l'art. Et dans une journée, on peut penser à tout ce qui ne va pas. Hein. Souvent, on a des pensées en tout ce qui ne va pas, à notre montagne de boulot. On peut avoir des pensées de colère envers quelqu'un, etc. Mais on peut aussi prendre le temps juste de s'arrêter pour admirer ce qui doit être admiré. Et de laisser ces pensées qui sont en lien avec ce qui est beau, ce qui est aimable. Le terme pourrait aussi être traduit par « doux et bienveillant ». Donc que nos pensées soient pleines de douceur et de bienveillance. Pour les autres autour de nous, mais peut-être pour nous-mêmes aussi, dans ce que nous traduisons, dans nos mots que nous transmettons. Donc que nos pensées soient l'objet de ce qui est aimable. 6. Ce qui mérite l'approbation. Alors dans approbation, ça va, vous êtes encore là? Ok, super. Non, je n'ai pas envie de vous perdre, vous dormiez. Alors, dans l'approbation, il y a la notion d'accord. Okay, on donne notre approbation. Vous êtes d'accord? C'est pas mal, hein? Vous êtes d'accord? On donne notre approbation. Okay. Aussi, on peut manifester notre approbation, donc témoigner notre estime ou notre satisfaction. L'approbation que nous avons besoin, c'est celle de Dieu sur nos vies. Donc je désire que mes pensées soient remplies de ce qui est approuvé de Dieu ou de ce qui mérite l'approbation, son approbation dans ma vie et dans celle des gens qui m'entourent. Donc je désire avoir des pensées de ce qui est approuvé de Dieu. Peut-être qu'en pensant ainsi, je peux même amener la bénédiction de Dieu. Ainsi, si je m'attache à ce qui mérite l'approbation de Dieu, je peux communiquer une mesure de grâce, un encouragement, et mettre de la valeur là où Dieu donne son approbation. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de dire, mais c'est quoi, Seigneur, c'est où que tu as mis ton approbation? C'est quoi que tu... Voilà, qu'est-ce que tu dis? C'est où ton approbation? Dans ma vie, mais dans la pensée pour les autres, etc. Ensuite, ce qui est vertueux, on n'utilise plus beaucoup ce mot. Hein. Donc il est ici question de qualité morale, comme la modestie, la patience, la générosité, le service, le courage. Mais j'ai simplement dit, on pourrait parler du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Hein. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui se demandent qu'est-ce qui est écrit sur la chair, c'est ça, si jamais une fois, ici, c'est gravé. Voilà, donc le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, ça, c'est ce que nous pouvons garder vraiment dans nos pensées. Que mes pensées soient pleines de joie, soient pleines d'amour, soient des pensées de paix, des pensées de bienveillance, de bonté, hein, de foi, de la douceur. Que mes pensées traduisent la maîtrise de soi. Ça commence souvent par là. Hein. Donc, ce qui est vertueux, c'est ces valeurs morales que nous pouvons retrouver dans ce fruit de l'esprit. Et puis, huitièmement, ce qui est digne de louange. Alors, ce qui est digne de louange, c'est arrêter peut-être de ruminer sur nos blessures et considérer le négatif pour laisser la place à des pensées pleines de reconnaissance. C'est la reconnaissance, reconnaissance envers Dieu et les autres. Mais c'est de choisir de retenir le positif de ce que nous vivons. Je ne crois pas que l'on peut être pessimiste ou déprimé tout en étant reconnaissant. Vous pouvez essayer, mais je crois que c'est assez difficile quand même. Donc vous allez voir que la louange, la reconnaissance va changer l'attitude de notre cœur. Donc, ces pensées joyeuses, elles enlèvent les pensées toxiques. Donc ces huit catégories, je vais les appeler comme ça, voilà huit choses dans lesquelles on peut se poser cette question, mais est-ce que mes pensées sont habitées par ça ? Puis je vous encourage à faire ce cheminement, à vraiment analyser un peu vos pensées dans cette semaine qui vient, dire, ok, cette pensée, elle me vient d'où ? D'un coup, je pense ça, que si c'est négatif sur vous-même, elle me vient d'où ? Et puis essayez de comprendre un petit peu le fonctionnement et laisser la place à Jésus pour changer ça. Et cherchez à avoir ces pensées-là. Cherchez à dire, mais Seigneur, reprenez ce verset, c'est juste un verset Philippiens 4:8. Reprenez ce verset dans votre semaine. Dites, ok, Seigneur, moi je veux m'attacher à ce qui est juste, je veux m'attacher à ce qui est pur. Puis cherchez ces choses-là dans vos pensées. Je vous encourage. Non, en conclusion, cette citation de Norman Peel, qui est aussi un pasteur, qui a écrit sur la puissance des pensées positives. Il a dit, changez vos pensées et vous changerez le monde. Alors c'est une conclusion d'envoi, mais c'est vrai, si on change nos pensées, nos manières de voir, nos mentalités, il y a une puissance pour transmettre quelque chose et pour changer le monde autour de nous. Donc, j'aimerais vraiment vous inviter à discipliner vos pensées, à gérer vos pensées pour un meilleur équilibre. Donc je rappelle, nous sommes responsables de nos pensées. Ne les subissons pas. Nous pouvons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous pouvons refuser les pensées toxiques et mensongères. Et puis nous pouvons choisir de remplir nos pensées avec tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Alors que le Saint-Esprit puisse nous renouveler dans nos pensées. Lui qui demeure en nous. J'aimerais simplement pouvoir prier avec vous ce matin.